France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Russes, Ukrainiens et Américains ont prévu de se réunir aujourd'hui à Abu Dhabi, une réunion trilatérale dont on se demandera si elle est susceptible d'apporter la moindre réponse dans ce conflit qui entrera le mois prochain dans sa cinquième année. Toujours dans l'ère de la défiance, on s'interrogera sur la stratégie américaine vis-à-vis de l'Iran. On détaillera également l'accord conclu hier pour permettre à la plateforme chinoise TikTok de continuer d'exister aux États-Unis. Enfin, l'actualité en France. Sébastien Lecornu affrontait ce matin deux motions de censure avant de déclencher un nouveau 49-3. Nous serons en direct de l'Assemblée, puis on en parlera avec notre invité aujourd'hui, Philippe Ballard, député de l'Oise et porte-parole du Rassemblement National. Après s'être autoproclamé faiseur de paix partout dans le monde et après avoir lancé hier en grande pompe la création de son conseil de la paix, justement, sans doute que l'annonce par Donald Trump dans la foulée d'un cessez-le-feu en Ukraine lui aurait donné un certain crédit. Seulement voilà, de la même manière que son club privé fondé sur l'extorsion et la domination oligarchique au service de la suprématie américaine ne saurait raisonnablement concurrencer les Nations Unies, le président américain a obtenu, à défaut d'une véritable trêve, une simple réunion de travail à Abu Dhabi. Or, si l'on s'en tient aux précédents pour parler direct du même genre, ceux-ci n'ont jamais abouti à autre chose qu'à des échanges de prisonniers de dépouilles, mais jamais à un règlement du conflit. Virginie Pironon, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est vrai qu'hier, tandis que les émissaires américains étaient à Moscou aux côtés de Vladimir Poutine, Donald Trump a lui rencontré Volodymyr Zelensky et à l'issue de cette rencontre, le président ukrainien a même déclaré que les documents en cours d'élaboration avec Washington pour mettre fin à l'invasion russe étaient presque prêts, sauf que tout tient précisément dans un mot, presque, puisque les discussions continuent en réalité d'achopper sur l'essentiel la question des territoires de l'est de l'Ukraine revendiqués par la Russie. Ce faisant, Virginie, que peut-on espérer de la réunion d'aujourd'hui?
Alors, vous l'avez dit Thomas, la question clé qui doit être abordée est celle du contrôle des territoires de l'Est de l'Ukraine. C'est ce qu'a encore répété ce matin Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse en ligne. Cela reste la question la plus délicate, celle qui cristallise désormais les points de désaccord. Car Volodymyr Zelensky l'a affirmé hier à Davos, les garanties de sécurité, cette fois, c'est prêt. Le président ukrainien affirme que le document doit être désormais signé par toutes les parties. Reste donc désormais, pour avancer vers une hypothétique paix, la question du Donbass. L'Ukraine doit-elle se retirer de ce qu'il lui reste de ces territoires de l'Est du pays qu'elle défend depuis 2014. La question est hautement inflammable politiquement pour Kiev. Alors difficile pour le moment de savoir s'il s'agira de négociations directes ou tenues de part et d'autre séparément avec les États-Unis comme médiateur. La délégation russe sera menée par un haut responsable de l'état-major, le chef du renseignement militaire, Igor Kostyukov, représentant de haut niveau également côté ukrainien, avec le secrétaire du Conseil de sécurité Roustem Oumerov, ancien ministre de la Défense, ou encore le chef de l'administration présidentielle, Kirillo Budanov. Volodymyr Zelensky le répétait hier à Davos, les Russes doivent être prêts à des compromis, mais refrain bien connu désormais ce matin, avant même le début des négociations. Le porte-parole du Kremlin l'a répété, les forces armées ukrainiennes doivent quitter le Donbass. Sans cela, dit-il, il est inutile d'espérer la conclusion d'un accord de long terme.
Merci Virginie Pironon. Parce qu'un vortex polaire souffle actuellement l'air arctique vers le sud, une intense vague de froid s'apprête à provoquer aujourd'hui des chutes de neige, de la grêle et du verglas sur une grande partie du Canada, mais aussi le centre et l'est des États-Unis.
Et puis l'autre actualité en provenance toujours du cercle arctique, c'est bien entendu le Groenland.
Même si Donald Trump a semblé faire en partie marche arrière sur ses velléités de s'emparer du territoire autonome, les Européens, certes soulagés, ne sont pas dupes, rudoyés qu'ils ont été par le président américain et confronté un temps à l'hypothèse que leur allié historique puisse même recourir à la force. Les 27 réunis en urgence hier soir à Bruxelles ont tenu à envoyer un nouveau message d'unité en cas de nouvelle provocation du locataire de la Maison-Blanche. En clair, tous appellent à rester vigilants. Et de fait, compte tenu de l'imprévisibilité du président américain, comment ne pas s'interroger à quand la prochaine crise, ainsi par exemple que sur la question de l'Iran, après avoir plusieurs fois menacé de frapper la République islamique, Washington avait semblé revenir sur ses admonestations la semaine dernière. Or, hier, Donald Trump a finalement annoncé qu'une armada navale américaine était en route pour le golfe Persique, maintenant ainsi la pression sur Téhéran. Éric Bigala, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Que faut-il comprendre dès lors de la stratégie américaine vis-à-vis de l'Iran ?
Eh bien, c'est encore effectivement un petit peu nébuleux. Un mercredi, le Wall Street Journal, citant des sources internes à l'administration américaine, révélait que le président américain, Donald Trump, avait demandé qu'on lui propose des options militaires décisives, ce sont ses termes, pour contrer l'Iran. Et c'est sans doute à ça que doit servir le déploiement du groupe aéronaval numéro 3 autour du porte-avions Abraham Lincoln. Et c'est une force assez conséquente. Hein. Le groupe aéronaval, c'est non seulement le porte-avions et sa centaine d'aéronefs, mais aussi potentiellement trois destroyers lance-missiles sur la zone, dans le golfe Persique, croisent déjà deux autres destroyers et trois dragueurs de mines américains. Quant au groupe aéronaval Abraham Lincoln, il a quitté la mer de Chine la semaine dernière. On l'a vu passer le détroit de Malacca en Malaisie ce mardi. Il devrait arriver en vue des côtes iraniennes ces prochains jours. Alors de quoi parle-t-on quand on parle d'options militaires décisives ? S'agit-il de décapiter, voire de faire tomber le régime iranien ? Des frappes aériennes, même soutenues, n'y suffiront probablement pas. Il faudrait des opérations au sol, en Iran, et pour le moment, le déploiement américain ne s'en est pas donné les moyens humains. Plus probablement, se dirige-t-on vers une campagne de bombardement des principales emprises des gardiens de la Révolution, les prétoriens de ce régime iranien ? Mais à quel prix ? L'Iran a averti qu'en cas d'attaque, il répliquerait probablement sur les bases terrestres dont les États-Unis disposent dans la région, en Jordanie, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, en Turquie, au Koweït ou à Djibouti. Toutes sont à portée des missiles balistiques iraniens. Une attaque américaine d'ampleur sur l'Iran menace donc d'enflammer toute la région, raison pour laquelle les pays du Golfe et Israël avaient demandé la semaine dernière à Donald Trump de surseoir à ses velléités d'attaque sur l'Iran. Manifestement, le président américain les a juste différés.
Merci Éric Bigala.
C'est la fin d'une longue saga judiciaire, un feuilleton politico-économique qui pesait sur les relations sino-américaines depuis 2020.
Oui, hier soir, la plateforme chinoise TikTok a annoncé avoir créé une co-entreprise majoritairement détenue par des investisseurs américains pour gérer ses activités aux États-Unis. Cette nouvelle structure servira à plus de 200 millions d'utilisateurs tout en mettant en œuvre des garanties strictes en matière à la fois de protection des données et de modération des contenus. Alors cet épilogue constitue une bonne nouvelle a priori pour le réseau social menacé jusque-là d'une interdiction totale aux États-Unis. Washington suspectant Pékin d'être en mesure de pouvoir influencer l'opinion américaine via le puissant algorithme de son réseau social. Sauf que ce sauvetage se fera au prix d'une perte de contrôle quasi totale de la part du géant asiatique. Les précisions depuis Pékin de notre correspondant Sébastien Berriot.
L'administration américaine a obtenu ce qu'elle souhaitait, à savoir une déconnexion, une séparation physique entre d'un côté les serveurs de TikTok en Chine et de l'autre les quelques 200 millions d'utilisateurs américains. Les États-Unis redoutaient une fuite des données personnelles susceptibles d'être détournées par les autorités chinoises. La maison mère de TikTok, ByteDance, ici à Pékin, a donc accédé à cette demande. Les activités du réseau social aux États-Unis seront désormais gérées par une nouvelle co-entreprise majoritairement américaine et qui sera notamment chargée de stocker toutes les données dans un nouveau cloud sécurisé. ByteDance conserve une part minoritaire de moins de 20%. C'est une perte de souveraineté évidente pour l'entreprise chinoise qui ne sera plus maître de son algorithme, avec un risque que les utilisateurs américains perturbés par le changement, s'éloigne de TikTok, car en effet l'application aura un nouveau visage, une nouvelle présentation des contenus différente du reste du monde.
La triste loi des séries en Espagne après la collision tragique de deux trains dimanche dernier en Andalousie qui a fait 45 morts, puis un autre accident ferroviaire mortel mardi soir en Catalogne, un mort et 37 blessés hier. C'est un train de banlieue qui a été heurté par un camion grue près de Carthagène, faisant quelques blessés légers.
Midi passé de 38 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Budget de compromis pour les uns, coup de force et reniement pour les autres. Ce matin, les députés étaient appelés à trancher le débat en se prononçant sur deux motions de censure après que le Premier ministre Sébastien Lecornu s'est finalement résigné à engager la responsabilité de son gouvernement sur le projet de loi de finances 2026. Adrien Taufollet, bonjour.
Bonjour.
En direct de l'Assemblée nationale. Comme attendu, aucune des deux motions déposées, l'une par la France Insoumise et l'autre par le Rassemblement National, n'a été adoptée.
Oui, pourtant toute la matinée dans un hémicycle quasiment vide, les députés de chaque groupe se sont succédés pour s'accorder sur deux points. Un reproche sur la méthode d'abord, le 49-3, que l'exécutif s'était engagé à ne pas utiliser. Éric Coquerel, député insoumis de Seine-Saint-Denis.
Le 49-3 demeure un coup de force. Mais au fond, je ne vous ai jamais cru quand vous disiez... Ce budget, nous ferons avec le Parlement, il saura ce que l'Assemblée veut en faire.
Reproche ensuite sur le texte final du budget qui a inspiré à la chef des députés Rassemblement National, Marine Le Pen, cette image.
Votre projet, je n'ose pas appeler ça un budget, est un Tchernobyl budgétaire. Une chape de béton sous laquelle vous avez tenté de cacher des éléments hautement radioactifs.
Imperméable aux critiques, Sébastien Lecornu le reconnaît encore comme il l'a fait auparavant. Ce projet de loi de finances est celui de personne et de tout le monde à la fois.
La vérité est pourtant simple. Ce texte n'est pas le texte initial du gouvernement. C'est un texte issu du compromis. Un texte travaillé, modifié, ajusté, parfois au prix de renoncement pour le gouvernement lui-même, pour tenir compte des discussions et des équilibres recherchés dans cet hémicycle.
Un texte né du parlementarisme, comme il s'y était engagé, défend le Premier ministre.
Pour la première fois depuis longtemps, le Parlement ne peut pas dire qu'il a été privé de son pouvoir. Il a eu le temps, il a eu les textes, il a eu les chiffres, il a eu les marges de discussion.
Une méthode qui a toutefois ses limites.
Quand le débat ne permet plus de conclure, quelqu'un doit assumer.
Avec un 49-3 présenté par Sébastien Lecornu comme un instrument de dernier secours qui ne pourra désormais être utilisé qu'en absolu et dernier ressort pour protéger et préserver les institutions, assure le Premier ministre, qui vient de déclencher une nouvelle fois, il y a quelques minutes, cette fois-ci pour la partie recette, pour la partie dépenses du budget, un nouveau 49-3, puisque vous l'avez dit, les deux motions sur la partie recette ont été rejetées, sans surprise, puisque les socialistes ont négocié la non-censure avec le gouvernement. Il a manqué 19 voix à celle des Insoumis, 146 à celle du RN.
Merci Adrien Toffolet en direct de l'Assemblée ainsi qu'à Benjamin Reyes pour les moyens techniques. Alors avant de commenter le résultat de ce vote avec notre invité, notons que la séquence de ce matin n'était en réalité que la première d'une longue série puisqu'en effet Sébastien Lecornu va devoir à nouveau engager la responsabilité de son gouvernement sur la partie dépenses du projet de loi de finances et quand bien même le Premier ministre assure que le 49-3 ne pourra plus être utilisé demain comme avant, cela ne l'empêchera pas de devoir rompre à nouveau sa promesse de ne pas en faire usage. Tourait-il que de plus en plus de voix se lèvent à présent autour de la nécessité en effet de revoir la procédure budgétaire et pourquoi pas Rosalie Lafarge d'en changer carrément les règles ainsi que le propose la présidente de l'Assemblée, la macroniste Yael Braun-Pivet.
Après 350 heures de discussion sur les budgets de la sécurité sociale et de l'État, l'issue sur ce dernier laisse un goût amer à la présidente de l'Assemblée.
Personne ne peut se satisfaire d'un 49-3. Le Premier ministre, le premier, il ne s'en satisfait pas. Il a essayé de trouver d'autres chemins. Il n'a malheureusement pas réussi à les trouver. Et on voit finalement que le 49-3 est la résultante d'un compromis. Mais pour autant, ce compromis... Notre objectif, c'est qu'il puisse naître dans l'Assemblée nationale et faire l'objet d'un vote dans l'Assemblée nationale. C'est ça mon objectif.
Yael Braun-Pivet en est convaincue. Aujourd'hui, la volonté politique est empêchée par la procédure. Il faut donc la faire évoluer.
On voit qu'on est incapable d'avoir des visions globales. On n'est pas capable d'avoir une vision globale du budget. Où on nous dit, en fait, on fait un 49-3 sur la partie recettes, mais on ne sait pas ce qu'il y aura dans le 49-3 sur la partie dépenses. Ça n'est pas possible. On ne peut pas travailler ainsi. Moi, j'ai des pistes de réflexion. Un, faire une fusion entre la partie 1 et la partie 2, ne plus avoir de vote qui conditionne la suite de l'examen. Nous pourrions également parler de politique publique, de dire par exemple, eh bien, nous allons avoir un débat sur le logement, qui comprenne la partie dépenses, la partie recettes et avoir de la pluriannualité.
Des changements qui nécessitent plusieurs niveaux de décision. Si certains peuvent être actés par l'Assemblée et le Sénat, d'autres relèvent de la Constitution et donc du président Emmanuel Macron. Mais Yael Braun-Pivet promet de tout faire pour tenter de modifier ces règles afin que ce budget soit le dernier ainsi discuté.
Et comme promis à présent, invité donc de la rédaction, Philippe Ballard, député de l'Oise et porte-parole du Rassemblement National. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Nicolas Ballu. Bonjour Nicolas.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Philippe Ballard. Bonjour. Vous avez entendu le reportage, les reportages d'Adrien Toffolet et Rosalie Lafarge. Est-ce que, comme Yael Braun-Pivet, vous pensez qu'il faudrait changer les règles d'adoption du budget et d'utilisation des outils comme le 49-3?
Alors il y a plusieurs choses. Bon déjà, effectivement, on peut se retrouver sur un point. On commence par voter les recettes et après les dépenses. C'est comme si un ménage disait... Voilà, j'ai les recettes et je vais voir ce que je peux dépenser. Ça peut se concevoir, mais des fois, ça devient un peu ambigu. Après, il y a quand même un problème arithmétique, là, parce que quand le Premier ministre dit, à cause des deux oppositions, LFI et RN, avouez qu'on n'a absolument rien à voir avec LFI, mais il bloque les débats. Attendez, si vous faites le compte des députés socialistes, de tout le bloc macroniste, des LR et du groupe Piot, on est à 53% de députés. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait là pendant toutes ces semaines? Pourquoi ils sont pas venus siéger? Pourquoi ils sont pas venus voter? On n'en serait pas arrivé à cette situation. Alors qu'on ne regrette pas, parce que de toute façon, c'était un mauvais budget. Tant qu'on ne s'attaquera pas aux dépenses, on n'y arrivera pas. Et puis maintenant, on est dans une... ça fait plusieurs années que ça dure. On gouverne par 49-3. Ça avait commencé avec Madame Elisabeth Borne. Mais le 49-3, initialement, c'était pas fait pour ça. C'était pour, en quelque sorte, domestiquer sa propre majorité. On se souvient, alors, faut remonter un peu, faut fouiller dans les archives, avec Raymond Barre et le RPR, pour domestiquer, en quelque sorte, sa majorité. Mais maintenant, c'est complètement dévoyé. Maintenant, c'est une façon de gouverner le pays via le budget.
Est-ce que ce 49-3, c'est pas simplement celui de l'impuissance parlementaire?
Ben, c'est surtout le résultat de ce qu'on a appelé, qui était bien mal noté, nommé, le Front Républicain. Vous savez, dans l'entre-deux-tours des législatives, quand les mélenchonistes ont dit, nous, on se désiste pour les macronistes, et les macronistes se sont désistés pour les mélenchonistes. Et le 7 juillet, à 20h01, c'était fini, ils s'en plafonnaient. Donc, on a la situation actuelle avec 11 groupes à l'Assemblée nationale, mais on paye ces législatives de 2024.
Encore un mot sur le 49-3. Tout à l'heure, Sébastien Lecornu disait le 49-3 ne pourra plus être utilisé comme avant, mais simplement en absolu et dernier ressort, je cite, pour protéger et préserver les institutions.
Ça veut rien, enfin, comme d'habitude, ça veut rien dire, quoi. On est dans la mousse, dans l'écume des choses. Non, mais ce qu'il faut, c'est tout simplement revenir. Ce gouvernement, Marine Le Pen a eu des mots très forts, hein, était illégitime. Là, vous avez passé l'extrait où elle part du Tchernobyl budgétaire. Mais il y a un vrai problème démocratique quand même qui se pose maintenant. Enfin, on peut pas gouverner avec le 49-3. Il faut retourner aux urnes, voilà, redonner la parole au peuple. C'est quand même ce qu'il y a de plus glorieux.
Tout à l'heure, encore une autre citation. La France a besoin en urgence d'un budget. C'est ce que disait un député LR ce matin à la Tribune. Donc de cette droite vers qui Jordan Bardella se tourne assez régulièrement, quoi qu'on pense du contenu du budget, beaucoup de personnes sensibles au discours de droite ou d'entreprises disent, voilà, à un moment, il faut un budget. Est-ce que c'est très cohérent avec votre stratégie de dire non et de censurer?
Alors, est-ce qu'il faut un bon budget ou un mauvais budget? Là, on a un mauvais budget. Donc, c'est pour ça qu'on a déposé une motion de censure. Ensuite, Jordan Bardella est très clair quand il parle de cet électorat, parce que là, vous parlez de députés LR, des députés LR quand même qui ont réussi le tour de force. C'est pas la première fois. Alors, ils ne votent pas la motion de censure LFI. Nous, on l'a votée parce qu'on n'est pas buté sectaire, qui avait une petite chance de passer, ils votent pas. Mais alors, par contre, ils votent la nôtre. Comme ça, ils pourront dire devant leurs électeurs, vous voyez, moi j'ai voté la censure, hein, mais on sait mathématiquement que malheureusement, notre motion de censure n'avait aucune chance. Non, nous on se tourne vers tous ceux qui, et pour les municipales, on sait très bien qu'il y a des cadres LR, les électeurs LR, les sympathisants LR, qui se tournent vers nous, travaillons ensemble. Oui, on leur tend la main, mais cette union, ça se fait dans les urnes au deuxième tour.
Hier, les députés, dans leur ensemble, se sont écharpés lors de la niche parlementaire des Républicains. Et lorsque Laurent Jacobelli, autre porte-parole du RN, lance, eh bien, si vous voulez lapider les homosexuels, votez LFI. Qu'est-ce que ça dit, un, du niveau du débat politique en général? Et puis, vous qui voulez incarner l'autorité et l'ordre, est-ce que vous ne tombez pas dans ce que vous dénoncez? Ou est-ce que c'est une sorte de bordélisation assumée? Bordélisation, bien sûr, entre guillemets, c'est un terme désormais dans le
livre. Oui, vous pouvez le mettre entre guillemets, mais c'est justement la réalité, parce que moi, j'ai assisté à tous les débats, celui-là qui portait donc sur les frères musulmans pour faire en sorte que ce soit reconnu comme organisme organisation terroriste. Et puis le soir, c'était peut-être plus violent d'ailleurs, le soir, sur la présomption de légitime défense pour les policiers. On a entendu des phrases mais qui étaient par rapport à celles de Laurent Jacobelli, mais on s'est demandé, même le ministre de l'Intérieur, on n'a pas beaucoup de points communs avec lui, mais enfin il s'est offusqué, le mot était fait, des propos tenus par LFI et quelques députés écologistes sur les forces de l'ordre. Mais c'était odieux, c'était honteux. Ces gens-là, bon, ils ont été élus, dont acte, mais ils font pas... ça, pour la représentation nationale, c'est un boulet de les avoir. Et après, le matin, oui, il y avait des débats extrêmement extrêmement vifs. Mais enfin, moi, je veux bien, mais LFI, qui défend, mais à travers... on peut très très bien être français. C'est pas une histoire de couleur de peau. C'est pas une histoire de religion. Non, mais là, on parlait des islamistes. C'est différent. C'est complètement différent. Et alors, défendre, comme l'ont fait les députés LFI, les islamistes, les frères musulmans, non, carton rouge.
Dernière question, je voudrais revenir à ce matin, c'est Marine Le Pen qui a parlé au nom du groupe RN. La chef des députés du groupe est également jugée en appel dans l'affaire des parlementaires européens du FN. Entendue mardi et mercredi, il y a quelques jours, elle était à Marseille en meeting. Est-ce que c'est une façon d'exister pour elle alors que son avenir est en suspens ?
Non, mais elle a une énergie absolument débordante. Oui, elle peut être au tribunal, répondre pendant 10 heures aux questions de la présidente et le week-end aller faire campagne pour les élections municipales, notamment à Marseille, où Franck Alizio a une chance de remporter la deuxième ville de France. Ça sera un très très beau signal à quelques mois de la présidentielle et des prochaines législatives.
Merci.
Merci.
Merci Philippe Ballard, donc député de l'Oise et porte-parole, je le rappelle, du Rassemblement National. Merci également à vous Nicolas Ballu. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Une nouvelle perturbation pluvieuse touchera l'ensemble du territoire quant aux températures. Elles seront comprises entre 5 et 12 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nina Malray. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Olivier Vogel pour le prochain journal de la rédaction.